Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu de l'émission de ce soir, les prisons françaises. Au 1er août, elles hébergeaient 68 819 détenus pour une capacité totale de 58 561 places, soit un taux d'occupation de plus de 100%, 117,5%. Et ce n'est pas nouveau, cela fait des années qu'on parle de surpopulation carcérale, un scandale humanitaire qui a ancré dans les esprits l'idée qu'il y avait en France, qu'il n'y avait pas suffisamment en France de places de prison, d'autant que si le principe de l'encellule individuel, comme on dit, est écrit dans la loi, il est loin d'être respecté. L'urgence de bâtir s'est donc imposée dans le débat public comme une solution évidente. La semaine dernière, le garde des Sceaux annonçait un plan de construction à long terme, au moins 10 000 places d'ici 10 ans. Mais construire plus de prisons, est-ce nécessairement mieux protéger la société? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Marie Crétenot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste responsable du plaidoyer à l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Georges Fenech, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Rhône, président de la commission d'enquête sur les attentats 2015 et secrétaire national du parti Les Républicains en charge de la justice. Alors Georges Fenech, ma première question sera simple. Faut-il construire plus de places en prison?
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Combien en faut-il?
Vous venez de donner les chiffres, pour 58 000 places de prison, 68 000 détenus. Ça donne des cellules à 2, voire à 3, et 1500 matelas par terre aujourd'hui. L'impossibilité d'entreprendre une politique véritable de réinsertion, des atteintes à la dignité, à la condition du détenu. Donc tout cela, évidemment, est insupportable dans une démocratie comme la nôtre. Si vous prenez en comparaison avec la Grande-Bretagne, il y a 96 000 places de prison. Et je dis à ma façon, je ne manque pas une occasion de le faire. Vous parlez de surpopulation carcérale, je ne partage pas cette terminologie. Surpopulation carcérale, ça veut dire qu'il y a trop de détenus. En réalité, nous sommes face à un sous-équipement immobilier pénitentiaire. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de places de prison. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en France, on incarcère plus qu'ailleurs. C'est ce que souvent a prétendu la gauche en disant c'est la politique trop répressive qui a amené autant de détenus. Non, on n'incarcère pas plus que les autres pays européens, on est dans la moyenne.
Donc on va y revenir, puisqu'il y a évidemment cette question, est-ce qu'on renonce à incarcérer faute de place en prison? Mais d'abord, je voulais vous donner la parole. Marie Crétenot, même question, est-ce que pour vous, il faut construire plus de places de prison en France?
Alors moi, ce serait la position complètement adverse. Non, il ne faut pas construire. Et cette réponse qui a l'apparence de l'évidence, elle a l'apparence de l'évidence depuis 30 ans. On ne cesse de construire. Ça a été cette question du manque de place de prison. On l'entend depuis 30 ans. Et en même temps, plus on a construit, plus on a incarcéré. Avec un phénomène aussi qui est absolument pas à ignorer. C'est que parallèlement, on n'a pas de hausse de la délinquance, au contraire. Au contraire, on a une baisse, enfin une stabilité pour certains secteurs d'infraction, et d'autres, une baisse des homicides, une baisse des vols, une baisse des cambriolages.
Alors, il y a évidemment plusieurs arguments que vous avez l'un et l'autre développés ou réfutés. D'abord, peut-être cet argument du traitement des détenus aujourd'hui en prison. Certains dorment sur des matelas, certains sont dans des cellules à 2, à 3, alors qu'il est inscrit dans la loi, c'est ce que je disais, le principe de l'encellulement individuel. Alors, la formule est compliquée, mais en gros, ça devrait être un détenu, une cellule. Est-ce que cet argument, il vous fait quand même pas réfléchir? Est-ce que la réponse, elle est pas un peu plus compliquée que non, il ne faut pas construire des places de prison?
Pas tant que ça. Aujourd'hui, si on appliquait la loi qui a été même adoptée sous un gouvernement de droite, c'est-à-dire le principe des aménagements de peine de prison pour les personnes condamnées à des peines de moins de 2 ans. Si on l'applique ne serait-ce qu'à des personnes qui exécutent des peines de moins d'un an, on a déjà résorbé la surpopulation carcérale en maison d'arrêt. Ensuite, la question de l'encellulement individuel devient un objectif tout à fait atteignable à court terme. C'est pas ce qu'on nous propose aujourd'hui.
Georges Fenech.
Oui, vous avez compris que l'argument de l'Observatoire international des prisons, en fait, c'est de dire on incarcère trop. C'est-à-dire il vaut mieux prendre d'autres solutions que la prison. Alors, on est évidemment tous pour les peines alternatives. Moi-même, j'ai été rapporteur du bracelet électronique, par exemple. Mais il y a un certain nombre de délinquants, un nombre incompressible de délinquants que seule la privation de liberté permet d'empêcher la récidive et compte tenu aussi de la gravité des faits. Qu'est-ce qu'on va faire quand on arrête un djihadiste qui est poursuivi pour une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. On va lui mettre un bracelet électronique, on va l'incarcérer parce qu'il présente un état dangereux. Les juges ne sont pas particulièrement répressifs en France. Les juges utilisent les peines aménagées, le bracelet électronique, la semi-liberté, la libération conditionnelle, la contrainte pénale, même si ça n'est pas un grand succès, ou sursis avec mise à l'épreuve. Mais vous avez un certain nombre de faits graves et de détenus qui méritent, qui doivent être privés de leur liberté.
Donc là, vous nous donnez l'exemple des djihadistes. Avant de faire réagir Marie Créteneau sur cet exemple, est-ce qu'il y a d'autres types de détenus qui, pour vous, doivent absolument rester en prison ?
Les trafiquants de stupéfiants, d'habitude, les auteurs d'attaques à main armée, les auteurs d'agressions sexuelles, les tueurs en série, les violeurs, tout ce qui fait le lot, je dirais malheureusement, quotidien des cours d'assises, des chambres correctionnelles. On a une criminalité que moi, personnellement, contrairement à votre analyse, je ne vois pas baisser particulièrement. Je fais partie aussi de l'Observatoire national de la lutte contre la prévention de la délinquance. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des secteurs où, au contraire, la délinquance, notamment le trafic de stupéfiants, ne cesse d'augmenter.
Alors, Marie Créteneau, sur cette distinction que fait Georges Fenech en fonction des détenus, quelle est votre position ? Vous dites non, il ne faut pas construire de places supplémentaires parce qu'il faut faire éviter la prison à toute sorte de détenus, ou vous aussi, vous faites une nuance, par exemple, les djihadistes, on en parle beaucoup, évidemment, en ce moment en France.
Je crois que c'est pas forcément la bonne manière d'aborder la question.
La réalité. Manière
d'aborder la question, c'est de savoir quelles sont les peines les plus efficaces et utiles pour la société. Aujourd'hui, on voit que les personnes qui sortent de prison récidivent bien plus que ceux qui ont fait l'objet d'une mesure alternative ou d'un aménagement de peine. Ça diminue même de moitié. En fait, les personnes qui sortent de prison récidivent à 61% dans les 5 ans. C'est une donnée qui doit interpeller.
Et effectivement, ces chiffres tombent, pour continuer à être précis pour nos auditeurs, à 34-32% pour une peine alternative à la peine de prison, comme par exemple le travail d'intérêt général. Je vous en prie,
ou le sursis avec mise à l'épreuve, ou la contrainte pénale. Et dit en passant, c'est aussi des mesures qui coûtent beaucoup moins cher. Et ça se retrouve au niveau international. Des méta-analyses au niveau international attestent de cette réalité-là. Et d'autres pays ont fait le choix d'autres types de politiques, c'est-à-dire de partir du principe qu'est-ce qui est le plus efficace et utile et qui par ailleurs protège mieux les droits fondamentaux des personnes sous main de justice, ce sont les peines alternatives et les aménagements de peine.
Quels pays ont fait ce choix ?
Il y a le Canada notamment, il y a les pays scandinaves, il y a l'Allemagne qui commence à le faire aussi. Voilà, il y en a d'autres, il y a les Pays-Bas aussi.
Georges Fenech, sur cette notion d'efficacité de la peine de prison, puisqu'effectivement la peine de prison, bon, c'est du droit pénal basique, il y a le côté sanction, il y a aussi le côté efficacité, réinsertion, qu'est-ce que vous répondez aux arguments que vient de développer Marie Créteneau ?
C'est un vieux débat. Faut-il conserver la prison ou faut-il se passer de la prison ? Moi, je crois que la prison, c'est un mal nécessaire. Ça doit être effectivement réservé en dernier recours. Il ne s'agit pas d'incarcérer n'importe comment un délinquant primaire ou un mineur. Mais qu'est-ce que vous faites après le Bataclan, 84 morts ? Vous faites quoi de Salah Abdeslam ?
Je n'ai pas porté le débat sur la question de l'abolition.
Voyez, non, mais
et ça,
voyez,
c'est une manière de détourner le débat.
Non,
parce
quand
que
je vous pose
pas...
une question concrète, je dis, vous êtes juge. On vous présente Salah Abdeslam, le seul survivant des assaillants du Bataclan. Vous faites un aménagement de peine, c'est-à-dire vous le mettez...
Non, pour l'instant, il est prévenu. Il doit être jugé.
Qu'est-ce que vous faites ?
Et là, particulièrement, la détention provisoire semble appropriée.
Voilà. Donc, il y a des cas... Je suis...
Oui, mais vous prenez ces cas extrêmes, alors que la majorité des personnes incarcérées le sont pour des petites peines,
vous avez
des petits délits.
Vous avez
raison. On a un recours majeur à l'incarcération pour des personnes poursuivies ou condamnées pour des questions de violence routière. Enfin, faut arrêter de mettre en avant les terroristes pour justifier ce type de politique.
Non,
on
va pas tomber effectivement dans l'excès ou le discours démagogique. Moi, je suis aussi un ancien juge d'instruction. J'ai été amené à incarcérer, à placer des mandats de dépôt en détention provisoire. J'essayais de le faire le moins possible, mais il y avait quand même un certain nombre de malfaiteurs, des organisations de malfaiteurs, des vols à main armée, des trafics de stupéfiants. La seule solution pour les empêcher de continuer et de les avoir sous la main ou qu'ils s'enfuient, c'était l'incarcération. Ça se fait pas de gaieté de cœur, d'incarcérer un homme ou une femme. Mais bon, quand vous avez une affaire, mais je suis d'accord avec vous que les petites infractions, il faut absolument avoir des peines aménagées. Je suis entièrement d'accord. La prison peut être nocive aussi pour les petits délinquants qui se retrouvent en contact avec des grands délinquants. Donc cela, il faut
alors,
en prendre
aménageons
conscience.
Aménageons les peines de moins d'un an et on n'a plus de problème
de surpopulation.
C'est
ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, jusqu'à même 2 ans. Vous le savez. C'est même la droite qui l'a fait en 2009.
C'est avec... les principes, c'est pas fait.
Alors, excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on pourrait être concret, parce que là c'est un débat entre juristes et vous
personne,
avez raison, mais
quand une
quels sont par exemple aujourd'hui les délits qui permettent d'échapper à la prison et d'avoir une peine alternative à la prison Marie Créteneau, donc vous pensez que c'est une bonne idée, une piste qu'il faut poursuivre?
Théoriquement, c'est tous les délits, c'est-à-dire tous les délits qui sont passibles jusqu'à 10 ans de prison, ça c'est la loi. Dans les faits, c'est absolument pas ça qui se passe. Mais la question véritablement aujourd'hui, c'est, enfin, il n'y a pas qu'une question d'échapper à la prison. C'est échapper à la prison, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sanctions. Et au-delà de la question de l'efficacité, enfin, il y a l'efficacité, mais l'efficacité, elle est aussi sur quel est le contenu de la peine, quel est le contenu de la sanction. Les peines alternatives, au moins, évitent des personnes d'être plongées dans un milieu violent, criminogène, d'aggraver les facteurs, certains facteurs de délinquance, et de travailler autrement et de travailler sur les facteurs de passage à l'acte. C'est pas ça qui se passe en prison. Quand vous avez par exemple une personne condamnée pour des questions de violence conjugale, alors peut-être qu'elle pourra suivre un programme sur la question de la violence conjugale, mais au quotidien, elle est plongée dans un milieu de violence où ça n'est que du rapport de force. Est-ce que c'est utile?
On peut Georges régler Fenech, ça autrement. Par exemple, restons sur ces exemples précis sur les violences conjugales.
Mais oui, mais madame parlait des violences à l'intérieur des prisons, des prisons criminogènes, comme vous le dites. Mais si on veut des prisons plus moins de tensions, si on veut, il faut plus de place, plus d'espace, plus de salles de sport, plus d'ateliers de travail. Moi, j'ai été visiter Fleury-Mérogis la semaine dernière. Il y a un atelier mécanique et je peux vous assurer que ceux qui font cette formation, qui reçoivent un diplôme qualifiant, ça sert à quelque chose. Donc la prison, c'est fait pour punir. Vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de le dire. La répression, ça a un sens, c'est-à-dire empêcher la récidive. Ça a aussi un effet dissuasif sur la population délinquante en général. Mais ça doit aussi avoir un but de réinsertion, de rééducation, de réinsertion. Aujourd'hui, ce travail, il est quasiment impossible par manque de moyens.
Alors justement, j'allais en venir aux moyens. Une place de prison, en gros, par détenu, si le chiffre, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est 30 000 euros par détenu et par an. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui?
Non.
Alors, allez-y.
C'est 60 euros par jour, à peu près.
Est-ce que cet argent ne devrait pas être plutôt mis dans des programmes qui visent à la réinsertion plutôt qu'à la prison, quand on sait aujourd'hui le problème de surpopulation carcérale?
Mais tout cela existe. Allez voir dans les tribunaux, les prisons, les juges d'application des peines. Quand un individu a atteint les 2/3 ou le tiers de sa peine, suivant qu'il est primaire ou récidiviste, il y a une libération conditionnelle avec un suivi.
Un taux d'aménagement de peine ridiculement bas. Il y a moins de 24% des personnes condamnées qui
bénéficient d'un aménagement
de peine.
C'est pas normal. Il faut éviter les sorties sèches.
Bah oui.
Il faut qu'à la sortie de prison, il y ait un suivi derrière.
80% de sorties sèches.
Mais c'est pas normal. Ça aussi, c'est une question de manque de moyens à l'extérieur. Les SPIP, vous savez, les services de prévention, les agents de probation sont en nombre encore insuffisants. Ils n'ont pas les moyens, effectivement, d'assurer ce suivi post-sentenciel.
Marie Créteneau, le problème, c'est que ce qui s'est toujours passé, c'est qu'à partir du moment où on construit, la majeure partie du budget de l'administration pénitentiaire est absorbée par ça. Et on ne développe pas. À chaque fois, bien sûr qu'on n'arrête pas de dire la prison, la réinsertion, etc. Aujourd'hui, on en est à 1h30 à peine d'activité par jour par détenu. Enfin, on en est là. S'il y a un nombre insuffisant de conseillers d'insertion et de probation, c'est parce que les moyens n'ont pas été débloqués. Pourquoi aujourd'hui ils le seraient? On a un budget qui est complètement grevé par l'immobilier. Et là, on s'engage. Ça a été plus de 5 milliards dépensés depuis 2004 pour la question de la construction des places de prison. Il y a à peu près le même niveau de dette parce qu'on a construit avec des partenariats publics-privés qui nous endettent. Et on nous engage encore dans une politique qui va... on nous dit 3 milliards, c'est toujours plus. Et à côté de ça, on ne développe pas le reste.
Cette notion, Georges Fenech, d'immobilier qui absorbe des fonds, puisqu'il faut entretenir effectivement...
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Y a une priorité aujourd'hui, c'est de construire ces prisons, parce qu'elles sont absolument nécessaires. Une prison, ça coûte cher. Moi, ce que je regrette, c'est que la gauche, et notamment Manuel Valls, qui vient d'annoncer ce plan de construction, ne l'ait pas annoncé plus tôt. Il a été solidaire de sa ministre, Madame Taubira, qui ne voulait pas, en dehors de rénovation ou de quelques créations, avait abandonné le plan de programme de construction de 20 000 places de prison que nous avions lancé en 2012.
Bon, mais Christiane Taubira qui avait dit cette phrase en 2012, nos prisons sont pleines mais vides de sens, qui rejoint un petit peu ce que vous nous expliquez.
Ça, c'est purement idéologique.
Et elle n'a pas arrêté de construire.
Vous savez, il y a l'idéologie d'un côté, la prison c'est pas bien, ces délinquants sont pas tellement responsables parce qu'ils ont des excuses, il faut éviter la prison. Si, il y a ce débat idéologique. Et puis il y a un débat qui est la réalité, c'est que nos concitoyens ont besoin d'être assurés d'une sécurité. Et la sécurité pour un certain type de délinquant, c'est quand même la privation de liberté.
Marie Cretenot, sur le site de l'OIP que vous représentez ici ce soir, vous écrivez qu'il faut parler d'une politique pénale humaniste, ambitieuse, audacieuse, visant à investir massivement dans la prévention, l'accompagnement, le suivi en milieu ouvert. C'est ce dont a besoin notre société. Alors, est-ce que plus concrètement, vous pouvez nous dire quelles sont, vous, les pistes que vous défendez pour ne pas avoir à construire des places de prison, puisque vous pensez que ce n'est pas la bonne solution ?
Ce que je vous disais, déjà la question des aménagements de peine, mais au-delà, développer les alternatives à la prison, et notamment la peine de probation. C'était l'ambition de Christiane Taubira,
Est-ce que vous pouvez définir, pour que ce soit bien clair, ce qu'est la peine de probation ?
600 peines de contraintes pénales qui ont été prononcées. L'ambition affichée, c'était sur 5 ans d'en avoir 20 000. Les juges ne peuvent pas, parce qu'ils savent très bien que cette peine n'est pas adaptée à un certain type de délinquant.
Non.
C'est la prison hors les murs, vous savez, la contrainte pénale.
Pour quel type de détenu elle est efficace, cette peine alternative ?
Pour une bonne partie, en fait, des auteurs de délits. Après, il faut commencer à construire ce type de peine, lui donner de l'ampleur avant de commencer à étendre son champ. Mais encore une fois, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable théoriquement à tout auteur de délit, passible jusqu'à 10 ans. Donc c'est assez large. Vous citez les chiffres de la contrainte pénale qui, oui, ne se développe pas parce que de toute façon, elle est assez illisible parce qu'elle ressemble trop au sursis avec mise à l'épreuve. Mais après, les sursis avec mise à l'épreuve restent une peine prononcée. Ça, il n'y a pas de difficulté.
Bah,
arrêtez de dire que ça ne marche pas.
Bah,
les taux de récidive
sont
moins importants.
C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de Mme Taubira à l'époque, quand elle présente la contrainte pénale, l'échec du sursis avec mise à l'épreuve, toujours par manque de moyens.
Mais elle est aussi justement cette contrainte pénale très associée à la figure de Mme Taubira qui a été extrêmement critiquée. Mmh. Jean-Jacques Urvoas, dont on parlait au début, a justement beaucoup insisté il y a quelques jours quand il a préparé son plan sur la nécessité d'être ensemble, d'une sorte d'union politique sur le sujet.
Ah, ça, c'est le grand mot à la mode, ça. Il faut être tous unis, on veut tuer le débat démocratique.
Pour vous,
il y a deux visions d'une politique pénale dans ce pays qui a été celle portée par la gauche. Depuis l'avènement de la gauche, depuis l'avènement de Mitterrand, et puis les seuls qui ont construit des prisons, ça a toujours été la droite, ça a été le plan Chalandon, ça a été Berben. Et la gauche n'a jamais construit de places de prison. C'est contraire à son ADN. C'est un problème idéologique.
Alors ça, c'est techniquement faux. Gauche et droite n'avaient pas cessé de construire. Mais le débat n'est pas là. Et je réinsiste, puisqu'on citait les chiffres tout à l'heure et vous les avez cités, les taux de récidive en cas de prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve sont bien moindres qu'en cas de prononcé d'une peine de prison. C'était les fameux 61% et 39%. Donc, qu'on dise que ça ne marche pas, c'est que ce soit pas assez développé, ça je l'entends, mais que ça ne marche pas, non.
Mais vous oubliez de dire aussi que ceux qui bénéficient d'aménagement de peine, ce sont des individus qui sont pas particulièrement dangereux et qui ont plutôt tendance à vouloir se réinsérer.
Donc, là,
vous pouvez pas dire la prison ça produit la récidive, l'aménagement non, parce que ceux qui sont en aménagement sont déjà des gens qui font des efforts considérables pour ne pas récidiver.
Bon, je parlais des alternatives, mais après même il y a des études qui le montrent, on peut neutraliser cet effet et ça produit les mêmes résultats. Après, on peut rester attaché à la prison pour des raisons idéologiques, mais il faut voir aussi le côté.
Je crois que les auditeurs ont bien compris que
le débat était intéressant.
C'était passionnant, mais je crois qu'on a bien compris que vous avez des positions opposées et un peu irréconciliables. Merci à vous deux, donc Marie Cretenot, juriste responsable du plaidoyer à l'Observatoire international des prisons, l'OIP, Georges Fenech, député du Rhône, président de la commission d'enquête sur les attentats 2015 et secrétaire national du parti Les Républicains en charge de la justice. Merci également à Valentin Vanneur, à Florence Ponce. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI. On se retrouve demain pour un nouveau débat.